nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, vers l'an 170 avant Jésus-Christ, Jérusalem, la Judée, le peuple juif était en pleine dégénérescence, décadence. La terre promise était occupée par différents royaumes hellénistiques, et surtout la religion, la vraie religion, cette religion révélée à Moïse, eh bien était en pleine décadence. La plupart des Juifs étaient infidèles. Ils suivaient des croyances plus ou moins hérétiques. Alors, un homme plein de piété et de zèle s'est levé pour la patrie et la religion. Matathias. Le pieux Matathias a rassemblé ses fils, ses familiers, ses amis, les quelques Juifs fidèles de Judée, et il s'est lancé dans une guerre pour la libération de la patrie et surtout pour le salut de la religion. Il faisait face à une situation catastrophique. L'occupation de la Judée par les différents royaumes hellénistiques avait engendré une grande infidélité dans le peuple et dans les prêtres, et parmi les lévites. Sous l'influence de l'hellénisme, une grande partie des juifs avait honte de la circoncision. Et donc, ils n'accomplissaient plus ce rite, ils ne faisaient donc plus partie du peuple de Dieu. D'autre part, l'hellénisme avait aussi engendré toute une vague d'immoralité par la pratique toutes les pratiques qui se passaient dans les gymnases. Et puis aussi, il y avait un fond d'idolâtrie, mais pas une idolâtrie comme les Juifs avaient eu l'habitude avec des idoles physique, comme dans les premiers temps de l'occupation de la terre promise. C'était une idolâtrie plutôt philosophique, s'attacher à des concepts, à des systèmes de pensée, à des explications du monde qui étaient contraires aux vérités révélées par les livres de l'Ancien Testament. Et puis le temple était profané. Les sacrifices n'y étaient plus offerts, et lorsque des sacrifices y étaient offerts, ils étaient offerts à des déités, des divinités, des idoles, des démons. Donc Matathias se lance dans cette guerre. Elle est difficile, mais au bout de quelques années, il y a quand même un certain succès. Jérusalem est reconquise, le temple est purgé de ses iniquités, de ses idolâtries, de ses profanations. Matathias et ses fils qui lui succèdent choisissent parmi les fils d'Aaron, des prêtres qui sont restés fidèles. Ils reconstituent, ils rassemblent les lévites fidèles et ils reconstituent un clergé, un enseignement qui soit fidèle à la vérité, tout simplement, fidèle à la morale, tel que Dieu l'a révélé à Moïse. Et cette restauration des Maccabées dure de 170 à 135 environ, pendant deux générations. En 135, il y a c'est Jean Hyrcan qui succède au dernier des Maccabées, et il va maintenir cette restauration pendant son règne, jusqu'en 107 environ. À partir de 107, la décadence recommence. À nouveau, le peuple n'a plus de leader qui soit fidèle, qui soit capable de les garder de l'erreur et de l'immoralité. Et peu à peu, ils sombrent à nouveau dans ces, dans ces vieux démons. Pourtant, au sein du peuple juif, eh bien, se constituent des groupes, des congrégations religieuses, en quelque sorte, on appelle ça des sectes, qui vont essayer de maintenir l'héritage des Maccabées. Il y a d'abord Sadoc, c'est un juif d'environ les années 80 avant Jésus-Christ, qui était lui-même disciple d'Antigone de Socco et qui lui-même était disciple de Simon le Juste, un des Maccabées. Et Sadoc constitue un groupe de fidèles pour maintenir cet héritage. Et de ce nom, Sadoc, eh bien, est venu les Sadducéens. Malheureusement, les Sadducéens ne seront pas fidèles à cet enseignement. Ils vont assez rapidement devenir ce qu'on peut appeler hérétiques. Les Sadducéens sont des grands ennemis de notre Seigneur dans l'Évangile. Et on voit notamment qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient pas non plus aux anges, à l'existence des anges. Il est très probable qu'ils ne croient plus en l'immortalité de l'âme. Et malheureusement, la plupart des prêtres du temps du Christ, des grands prêtres anécaïfs, jusque quasiment toute la classe des prêtres, ils sont sadducéens. Cela vous donne un peu une idée de l'ampleur de la catastrophe doctrinale au temps du Christ. Les prêtres, probablement la plupart des prêtres, ne croient pas que l'homme est une âme immortelle. Parce que de là, tout s'effondre. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus que ce qui faisait l'essentiel de l'intérêt et de la vie des Sadducéens, les richesses et l'argent, et les plaisirs. Mais surtout, le point principal de la doctrine des Sadducéens, c'est la négation de la tradition. Pour les Sadducéens, il n'y a que la loi écrite, principalement les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Torah, comme l'appellent les Juifs. Et c'est cela la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Il n'y a pas de tradition. Et c'est sur ce point-là qu'ils s'opposent à leurs grands ennemis, les pharisiens. Les pharisiens, c'est une secte, une congrégation religieuse d'avant le temps du Christ, qui naît dans les années 100 avant le Christ environ, et qui, elle, maintient face aux Sadducéens que la vérité divine, la révélation, est connue par les Écritures et la tradition des pères. Les pharisiens ont pris ce nom pharisien, qui signifie les purs, parce que justement, ils ont maintenu dans sa pureté la révélation telle qu'ils l'avaient reçue de leur père, qui remonte jusqu'à Moïse, Abraham, etc. Donc les pharisiens étaient, avant le temps du Christ, les défenseurs, les champions de la vérité, de la vraie religion maintenue dans toute son intégrité. De plus, face aux Sadducéens et face à toutes sortes de groupes de juifs qui étaient plus ou moins hérétiques, les pharisiens ont maintenu que la foi seule ne sauve pas et qu'il faut les œuvres. Il faut accomplir les œuvres de la loi mosaïque. C'est par la foi et par les œuvres que l'on plaît à Dieu et qu'on peut être sauvé. Et en tout cela, les pharisiens étaient justes. C'était dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté. Et c'est pourquoi notre Seigneur fait un certain éloge des pharisiens dans les évangiles. Il dit à ses disciples, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils disent. Notre Seigneur rend témoignage que l'enseignement des pharisiens est essentiellement juste, essentiellement vrai. Et pourtant, notre Seigneur a réservé ses plus fortes invectives, ses malédictions les plus terribles contre les pharisiens. D'abord parce que les pharisiens étaient affligés d'un défaut très grave. C'était celui de la dureté de l'injustice. La loi du talion. Œil pour œil. Et puis surtout, ils avaient l'art de justifier l'injuste. Notamment sur la loi des héritages. Si quelqu'un donne tout ce dont il a hérité de ses parents au temple, eh bien, il est dispensé de rendre honneur à ses parents, c'est-à-dire de les s'occuper d'eux dans leurs vieux jours, en sachant que par un certain système juridico-financier, le donataire pouvait récupérer une bonne partie de sa donation, tout en laissant une partie au prêtre, au scribe, que sais-je. Vous voyez, il y avait tout un système où on respectait la loi tout en pratiquant l'injustice. D'autre part, ils avaient l'art de maintenir d'être des rigoristes absolus pour les points les moins essentiels de la loi et de négliger l'essentiel, l'amour de Dieu et des prochains. Le Seigneur leur reproche. Vous connaissez bien ce verset de l'Évangile. Il filtre le moucheron et avale le chameau. Le troisième reproche de notre Seigneur aux pharisiens, c'est celui d'être méprisant et vaniteux. Vous connaissez bien cette parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien, tel que notre Seigneur le décrit, est un condensé de mépris, de suffisance et de vanité. Et il redescendit du temple sans être justifié. Ces trois reproches, ont une seule et même racine, c'est l'orgueil. C'était le drame des pharisiens, en quelque sorte. C'est de s'être attaché à la vérité, à la défense de la vérité, mais peu à peu, cet attachement a tourné à l'orgueil. Et cet orgueil les a entraînés dans un vice, le vice suivant, qui est l'hypocrisie. Méfiez-vous des pharisiens dont le levain est l'hypocrisie. C'est-à-dire que ce qui les fait bouger, ce qui les met en mouvement, c'est l'hypocrisie. Avoir l'apparence du bien, d'un homme de bien, alors qu'ils sont mauvais, qu'ils se savent mauvais. Donc, l'hypocrisie, c'est cela. C'est quelqu'un qui a conscience de sa malice, mais qui volontairement se donne les apparences d'un homme de bien. Il y avait une grande méchanceté, une grande malice chez les pharisiens du temps du Christ. S'ils n'avaient pas eu conscience de leur vice, ils n'auraient pas été hypocrites. Ils auraient été cyniques. Tel le publicain qui étale son vice en public, qui est reconnu comme voleur et qui n'en a cure. Et ces vices-là ont entraîné les pharisiens jusqu'à l'extrême. La mise à mort du Christ. Il faut bien méditer sur ce fait absolument indiscutable, certain. Le Christ n'aurait pas été mis à mort s'il n'y avait pas eu l'alliance de ceux qui faisaient profession d'avoir la foi, d'être fidèles au vrai Dieu. Les Sadducéens sont d'anciens fidèles, des croyants tombés dans l'hérésie. Les pharisiens font profession d'être les fidèles, les purs dans la doctrine. Et c'est de l'alliance de ces deux groupes, de ces deux sectes, c'est l'alliance de ces deux sectes qui rendra possible le déicide. S'il n'y avait eu que les païens, le Christ serait mort dans l'indifférence, ce qui est déjà un péché bien suffisant. Être indifférent au Christ, c'est déjà tragique, dramatique. Mais les Sadducéens, les pharisiens ont poussé bien plus loin la malice des païens. Ils l'ont poussé plus loin parce qu'ils ont eu la foi et que chacun à leur manière, ils ont été infidèles. Si je vous ai raconté à grands traits cette histoire des Maccabées, l'histoire des défenseurs de la foi d'avant le temps du Christ, eh bien c'est parce qu'il y a une leçon, vous le comprenez bien, pour notre temps. De nos jours aussi, le Christ est recrucifié, et par les mêmes personnes, les mêmes catégories de personnes. La crucifixion a été rendue possible parce que il y a l'alliance des Sadducéens, les hérétiques, des pharisiens, ceux qui se prétendent purs, qui se prétendent fidèles alors qu'ils ne le sont pas, les hypocrites, et Judas, le clergé infidèle, le clergé exactement infidèle, mais le clergé apostat, le clergé traître au Christ. Eh bien, on retrouve bien ces trois types dans la crise de l'Église aujourd'hui. L'Église vit sa passion comme le Christ. Et la question se pose pour nous. Où sommes-nous situés? Sadducéens, pharisiens. Il faut méditer sur le destin des pharisiens. Ils ont eu raison de mener leur combat pour la vérité. Il est absolument certain, indéniable, qu'à l'origine, les pharisiens sont vraiment des juifs qui sont attachés à Dieu. Ils sont pieux, ils ont la crainte de Dieu. Ils veulent sauver leur âme et sauver l'âme de leurs proches. Mais peu à peu, ils se sont attachés à ce combat, non pas par amour de Dieu, non pas par amour du prochain. Mais par amour d'eux-mêmes. Finalement, leur combat se résume à cela. Je tiens la vérité, je défends la vérité, parce que je la vaux bien. Je ne peux pas m'abaisser à tomber dans le sophisme, dans l'illogisme, l'inexactitude. Et puis la vérité a ceci d'intéressant, c'est que la vérité est puissante dans une discussion. Lorsque, dans une discussion, on arrive à fermer la bouche de son contradicteur par la vérité, il y a un certain plaisir. Et on peut, à force, s'attacher plus à cette satisfaction qu'à la vérité elle-même, à Dieu lui-même, au Christ. Donc nous devons bien réfléchir à nos motivations, à notre intention lorsque nous défendons la vérité, lorsque nous voulons être fidèles à la tradition. Pour finir ce sermon, plus de manière concrète, eh bien, si on se pose la question, mais comment trouver cet équilibre entre la détermination à combattre l'erreur, combattre l'hérésie, les hérétiques, les semi-hérétiques, les quarts d'hérétiques, comment concilier cette détermination qui demande de la force, de la pugnacité, une capacité à attaquer, parfois faire mal à son prochain d'une certaine manière, et en même temps, eh bien, garder des dispositions d'amour de Dieu, de défiance de soi-même, d'humilité, d'amour du prochain. Eh bien, considérons Notre-Dame. C'est en méditant l'exemple de Notre-Dame durant la vie publique de notre Seigneur que nous trouverons de manière pratique cet équilibre. Notre-Dame qui a accueilli avec patience, bonté, miséricorde tous les pécheurs, les pécheresses que notre Seigneur lui a amenés durant sa vie publique. Elle a suivi son fils au milieu des saintes femmes, qui n'étaient pas saintes du tout au départ. Lorsqu'elle a vu les apôtres faiblir à différentes périodes de la vie de notre Seigneur, surtout au moment de la Passion, elle les a certainement soutenus de ses conseils, de sa parole, et surtout de ses prières et de ses pénitences. Et puis son exemple au pied de la croix. Son exemple au pied de la croix, eh bien, c'est la réparation des blasphèmes que son fils, qui sont proférés contre son fils, une réparation intérieure. Elle offre en réparation les souffrances que ces mêmes blasphèmes causent dans son âme, dans son cœur. Donc demander à Notre-Dame, eh bien, certainement, l'amour de la vérité, la force pour défendre la vérité telle que le Christ nous l'a révélée et que l'Église nous l'a transmise depuis 2000 millénaires, mais demandez surtout la grâce de vous attacher à cette vérité qui est le Christ, avec amour de Dieu, pour l'amour du prochain, en toute humilité et en toute simplicité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.